Alors, comme annoncé, je vais me limiter à m'intéresser aux portes, aux 10 portes qui sont mentionnées dans ce chapitre. Il y aurait sûrement beaucoup d'autres détails à relever. Je vais uniquement m'intéresser au nom de ces portes, chaque fois en essayant d'en tirer une application à la vie chrétienne. Je suis conscient de marcher dans des sentiers battus, c'est un sujet qui a souvent été examiné, présenté. Peut-être que vous l'avez déjà entendu souvent, peut-être que vous allez entendre des choses un peu différentes, mais ça fait partie de la richesse de la parole de Dieu qui a plusieurs tiroirs et à un moment donné peut nous apporter des enseignements complémentaires. Il s'agit bien sûr d'une lecture allégorique, il ne s'agit pas de poser ici la doctrine chrétienne, puisque c'est le Nouveau Testament uniquement qui nous permet de trouver la doctrine chrétienne, mais d'une manière imagée, nous avons, il me semble-t-il, ici un aperçu d'un certain nombre de bases importantes pour la vie du chrétien, au travers des noms de ces portes. Je veux aussi dire en introduction que dans le chapitre 12, nous sont mentionnées 2 autres portes, ce qui fait un total de 12 portes. Il s'agit de la porte d'Éphraïm et de la porte de la prison. Alors je ne vais pas parler longuement de ces 2 portes, peut-être un seul mot. Éphraïm, ça veut dire deuxième naissance. Vous savez qu'Éphraïm, c'est le jumeau de Manassé. Et quand il est né, sa mère constatait qu'il y avait une deuxième naissance, donc l'a appelée deuxième naissance. Alors peut-être qu'on peut y voir la nouvelle naissance. Et la prison, ça serait l'état de ceux qui ne sont pas au Seigneur. Donc on pourrait dire que ces 2 portes complémentaires nous donnent les 2 catégories d'êtres humains qui existent sur cette terre. Soit on est né de nouveau, on a traversé une deuxième naissance, soit on est encore en prison. On est prisonnier de ce monde, prisonnier de ses péchés, prisonnier de Satan. Et donc c'est important pour nous de savoir si nous sommes entrés par cette porte d'Éphraïm, par la nouvelle naissance, ou si nous sommes encore en prison. Alors nous allons commencer par la première porte qui est mentionnée au verset premier. Néhémie décrit la reconstruction des portes dans un ordre qui n'est pas pris au hasard. Il fait le tour de la ville dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous avez en principe sous les yeux un document qui vous a été remis. Il est un petit peu pâle, vous m'excuserez. Vous devez voir en plutôt gris une muraille d'une ville un peu allongée. Donc, c'est la forme de la reconstruction supposée de la ville de Jérusalem au temps de Néhémie. Il y a d'autres versions où on la voit un petit peu plus élargie, que vous trouvez dans nos Bibles. Et puis vous avez en très clair, alors je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, les murailles de la ville actuelle de Jérusalem. Il y a une intersection entre les deux, mais enfin ça ne se juxtapose pas tout à fait. Il ne faut pas chercher dans les portes actuelles de Jérusalem toutes ces portes dont nous allons parler, parce que ce n'est plus du tout les mêmes. Il faut savoir que les murailles actuelles de Jérusalem ont été construites au XVIe siècle, hein, par Soliman le Magnifique. Donc c'est bien postérieur à notre histoire ici. Ici nous sommes à peu près en 445 avant Jésus-Christ. Pour situer un peu le contexte historique, les fils d'Israël ont été déportés à Babylone. Un certain nombre d'entre eux sont revenus déjà sous Esdras. Ils ont reconstruit le temple d'une manière un peu sommaire, mais ils ont pu recommencer à célébrer des sacrifices. Et puis un peu plus tard, c'est le livre de Néhémie. Un autre groupe vient pour reconstruire cette fois-ci la ville et la muraille. Et donc c'est ce qui nous est ici décrit dans notre chapitre 3. Alors nous commençons par la porte des brebis. Donc comme j'ai dit, on va s'attacher uniquement au nom de la porte. La brebis, Nouveau Testament, bien sûr, image du croyant. Et on a tout le chapitre 10 de l'évangile de Jean qui nous parle de ce thème. Oui, le croyant est une brebis. Le Seigneur est le bon berger. Et le croyant est une brebis. Alors on va lire 2 versets dans Jean 10. Jean 10, versets 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors je crois qu'on peut souligner 2 caractères de la brebis ici dans ce passage. La première chose, c'est qu'elle écoute la voix du berger et elle le suit. Ceux qui connaissent un peu les moutons savent que, effectivement, les moutons sont des animaux assez dociles. Si on les compare avec les chèvres, en particulier, je ne sais pas comment sont les chèvres ici sur le plateau, mais dans les Pyrénées en tout cas, on voit bien la différence de comportement entre le mouton et la chèvre. Le mouton est discipliné, il est un peu naïf d'ailleurs, il obéit sans trop réfléchir. Vous connaissez l'histoire des moutons de Panurge, il suit. Alors que la chèvre, elle ne pense qu'à faire des bêtises. Ça donnait le groupe des caprins qui vient de capricieux, caprice, c'est la même racine. Donc voilà, je sais que chez mes parents, lorsqu'ils avaient des chèvres, c'était pas rare que les chèvres mangeaient les géraniums. Elles rentraient dans la maison, elles mangeaient les feuilles, les cahiers. Elles montaient dans les chambres, elles pelaient l'écorce des arbres au lieu de manger l'herbe qu'il y avait en abondance. Voilà, donc que des bêtises. Alors voilà, le chrétien est appelé à être un mouton, pas une chèvre. D'ailleurs, vous savez, dans Matthieu 25, le Seigneur met les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Ce sont les bons qui sont à droite, les moutons, et les mauvais à gauche. Alors voilà, n'ayons pas crainte d'être dociles avec ce bon berger qu'est le Seigneur Jésus, d'être soumis, d'être naïf même. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf vis-à-vis de tout le monde dans notre vie, mais évidemment il faut être prudent aussi, mais avec le Seigneur, ayons une confiance de type enfantine. C'est déjà vrai pour le salut, le Seigneur a dit en Matthieu 18, celui qui ne devient comme un petit enfant ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Si on fait beaucoup de raisonnements, si on veut faire des démonstrations, si on veut que tout soit conforme à la logique humaine, on risque de ne pas se convertir. Alors que si on prend les choses comme un petit enfant, eh bien on va accepter l'évangile. Alors, continuons sur cette lancée, on peut dire, de la brebis. Elle est entrée par la porte. Et ensuite, il faut qu'elle reste docile dans la confiance du bon berger. Donc je crois que c'est un premier enseignement pour nous, cette brebis. La docilité et la dépendance du Seigneur. Les versets qu'on a lus, il y a une deuxième chose, c'est que personne ne les ravira de la main du bon berger. Et je pense qu'on peut voir ici un verset fondamental qui établit qu'on ne peut pas perdre le salut. Parce que le Seigneur nous garde dans sa main. Je vais encore vous raconter une histoire qui s'est passée dans les Pyrénées, à peu près deux mois maintenant. Ça a paru dans la presse. C'est presque chaque année. Vous savez qu'on a dans les Pyrénées les derniers ours de France. Bon, ça attire beaucoup l'attention, mais ce n'est pas que des heureux, parce que chaque année, des troupeaux sont attaqués. L'ours n'attaque pas vraiment le troupeau, il s'approche, ça effraie les brebis, et en général, les brebis se mettent à courir, et puis tombent dans un ravin. Et donc, j'ai lu le témoignage d'un de ces bergers qui a subi une perte de 70 brebis, et il racontait comment ça s'est passé. Alors, il a dit, il y avait un brouillard très très épais. Il n'a pas vu l'ours, il n'a pas vu ce qui se passait exactement. Il a vu que ses brebis se sont mises à courir à toute vitesse dans le brouillard. Et donc il disait, je n'ai rien pu faire, il aurait fallu que je les suive, que j'essaie de les arrêter, mais comme il y avait du brouillard, je serais tombé avec elles dans le ravin. Donc vous voyez, bon, on peut dire que ce n'est pas vraiment le bon berger celui-là, le pauvre, personne ne va lui jeter la pierre, bien sûr, il a fait ce qu'il fallait, c'était que des brebis. Mais le bon berger, lui, met sa vie pour les brebis. Nous avons affaire à un bon berger qui a donné sa vie pour les brebis. Le berger disait aussi, et ces deux choses m'ont frappé, qu'il aurait fallu qu'il puisse les appeler toutes pour qu'elles s'arrêtent. Il fallait vite les suivre, passer devant et les arrêter. Mais bon, impossible d'arrêter tout un troupeau. Mais le Seigneur lui dit que le bon berger connaît ses brebis. Il les connaît nom par nom et donc il peut les appeler et les arrêter, une par une. Donc nous avons affaire à un bon berger et à partir du moment où nous lui appartenons, eh bien, on ne pourra pas nous ravir de sa main. Donc ça nous montre que nous ne pouvons pas perdre le salut. On peut peut-être pour un temps perdre la communion avec le Seigneur parce qu'on s'égare, on s'éloigne. C'est la brebis égarée. Et dans Ézéchiel, je crois, il est question du berger qui va ramener la brebis égarée. Mais une brebis du bon berger ne peut plus être une brebis perdue. C'est lui-même qui le dit, on ne peut pas les ravir de sa main. Donc il faut vraiment que nous soyons, je dirais, affermis, assis sur cette certitude que une fois qu'on a cru au Seigneur Jésus, une fois, eh bien on ne peut pas perdre le salut. Alors on va passer à la deuxième porte, donc qui se trouve au verset 3. C'est la porte des poissons. Alors on peut voir dans ces poissons le fait d'annoncer l'évangile, parce que le Seigneur a dit à ses disciples, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Mais j'aime aussi y voir une image du chrétien qui doit résister à son environnement, parce que le poisson a des nageoires et le poisson est capable de remonter le courant. Je vais vous raconter une autre histoire qui vient un peu plus loin cette fois-ci, ça vient du Congo. Donc j'y suis allé au mois d'avril et j'ai eu le privilège de faire de la pirogue sur la rivière Sankuru. C'était assez émouvant. Ce qui m'a frappé sur cette rivière, c'est qu'il y avait des plantes qui flottaient, qui semblaient, on aurait dit qu'elles étaient installées, qu'elles étaient faites pour vivre en flottant sur l'eau, elles avaient l'air tout à fait bien en forme, et qui suivaient comme ça le courant. Alors j'ai posé la question aux frères qui étaient avec moi, ils m'ont dit, ben oui, ce sont des plantes qui se détachent du bord, et puis elles sont entraînées, mais elles flottent comme ça, mais elles peuvent aller loin, Bon, mais après, évidemment, quand le Sankuru va se jeter dans le Kasaï, puis dans le Congo, ça va arriver à la mer et tout va être détruit. Et ils m'ont dit, il y a aussi des poissons qui vivent sous ces plantes, qui se mettent à l'abri, enfin à l'ombre sous les plantes, mais uniquement sur les bords, hein, qui vivent sous les plantes et qui ont le même nom que les plantes. Alors, je suis incapable de vous redire le nom de ces plantes en Chiluba, puisque c'est la langue locale. Donc, les poissons ont le même nom que les plantes. Alors, ça m'a donné une sorte de parabole, comme vous pourrez y voir. Ce sont des êtres humains, autant les uns que les autres, mais il y en a deux catégories. Il y a ceux qui suivent le courant. Il y a ceux qui font comme tout le monde, qui semblent en bonne santé, tout semble bien réussir, mais qui ne savent pas trop ce qui les attend. C'est que beaucoup plus loin, il va falloir rendre compte de ce qu'on aura fait pendant sa vie. Et puis, il y a les poissons, c'est aussi des êtres humains comme les autres, mais ceux-là, ils ont des nageoires et donc ils remontent le courant. Et si les plantes se laissent entraîner par le courant, les poissons, eux, résistent et ils restent en place. Alors, c'est un peu une image du croyant qui va résister à la mode, même si, évidemment, je ne veux pas dire que la mode est toujours quelque chose de mauvais, mais enfin, qui va résister aux mauvaises modes, en tout cas, pour obéir au Seigneur. On peut lire dans la première épître de Pierre, donc ce verset qui est noté sur votre feuille, 1 Pierre 4, verset 3, « Il nous suffit d'avoir accompli, dans le temps déjà écoulé, la volonté des nations. » Vous voyez, la volonté des nations, ça pourrait être ce cours du Sankuru qui va vers la mer. « Alors que nous marchions dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les excès dans le manger et le boire, et les criminelles idolâtries, en quoi ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux, dans le même bourbier de corruption, vous disant des injures. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Vous voyez comment on peut rapprocher ce verset de cette histoire des poissons. Voilà, il y a ce qui se fait autour de nous et... Là, je voudrais en particulier m'adresser aux jeunes, parce que ce n'est pas toujours facile de se singulariser, de faire différemment par rapport à ce que tout le monde fait. Quand on est adolescent, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Vous savez, les ados, ils veulent tous des habits avec les mêmes marques, des chaussures, bon, un téléphone portable, tout ce que les gens ont, hein, parce que c'est la mode et puis qu'on aime bien être comme tout le monde. Bon, je ne dis pas que tout est mauvais dans ce qui se fait autour de nous, mais il faut savoir quand même s'arrêter. Il y a des choses qui nous sont mentionnées ici. La débauche. Donc on peut voir là les désordres sexuels dans lesquels notre société se corrompt, on peut dire. Les convoitises, c'est-à-dire qu'on veut toujours plus, on veut toujours ce que l'autre a et qu'on n'a pas. L'ivrognerie, les excès dans le manger et le boire, donc les excès en tout genre. Et puis également les criminelles idolâtries. Et à l'époque, évidemment, c'était des idoles en bois et en pierre, mais vous savez bien qu'il y a aussi aujourd'hui des idoles modernes. Ça peut être des stars du sport ou de la chanson. Et on peut devenir idolâtre. Bon, là encore, il faut voir jusqu'où les choses vont. On peut apprécier un style de musique, on peut apprécier un sport, on peut regarder un match de football à la télévision, mais il faut faire attention à quel point notre cœur est engagé. Hein, je crois que c'est bien ça la question. Si on a tous les posters d'un joueur de football qui tapisse notre chambre et qui ne reste plus un centimètre carré à disposition, je crois qu'on peut dire que là, on en est au stade de l'idolâtrie. Si on est prêt à faire des kilomètres et des kilomètres, dépenser toutes ses économies pour aller écouter un concert d'un chanteur préféré, je crois que là aussi on en est à l'idolâtrie. Donc tout est dans l'état de cœur, évidemment, l'attachement que représente la chose, mais il nous faut être vigilants et ne pas faire comme ce que nous voyons autour de nous qui se laisse prendre dans ce bourbier de corruption, ce flot du Sankuru qui va vers les chutes finales où tout est détruit. Voilà, ça c'était la deuxième porte. Et donc nous allons passer à la troisième porte, donc un petit peu plus bas, c'est la porte du vieux mur. Alors la porte du vieux mur, ou la vieille porte, hein, dans certaines versions on a, elle va nous parler de tout ce qui est ancien. Et forcément, si c'est ancien et que c'est encore là, c'est que c'est solide. Alors j'aime y voir les fondements de notre foi. On peut s'interroger sur quels sont les fondements de notre foi. Qu'est-ce que nous croyons? C'est important de savoir ce qu'on croit. Alors je pense à ce verset de Éphésiens 2, verset 20.